Bonjour à vous qui nous écoutez ce matin. Je vous souhaite la paix de notre Seigneur le Dieu Tout-Puissant. Celui qui a pris soin de vous, vous a préservé la vie jusqu'à ce jour. C'est le Dieu qui connaît vos circonstances de vie. Aucune ne lui échappe. Dans la joie comme dans la peine, il est aux côtés de ceux qui se confient en lui. Ce Dieu est celui qui vous aime bien au-delà de ce que vous pensez. Que sa grâce vous soit renouvelée en ce jour béni. Je vous propose la lecture du psaume 33. Juste réjouissez-vous en l'Éternel. La louange convient aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe. Louez-le sur le luth à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix. Car la parole de l'Éternel est droite. Et toute son œuvre s'accomplit avec fidélité. Il aime la justice et le droit. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Le ciel a été fait par la parole de l'Éternel, et toute son armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle les eaux de la mer. Il garde les océans dans des réservoirs. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il parle et la chose arrive, il ordonne et elle existe. L'Éternel renverse les plans des nations, il anéantit les projets des peuples. Mais les plans de l'Éternel subsistent éternellement, et les projets de son cœur de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu, heureux le peuple qu'il choisit comme son héritage. L'Éternel regarde du haut du ciel, il voit tous les hommes. Du lieu où il habite, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui a façonné leur cœur à tous, il est attentif à toutes leurs actions. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas sa grande force qui délivre le guerrier. Le cheval est impuissant pour assurer le salut, et toute sa vigueur est incapable de procurer la délivrance. Mais le regard de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. Sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin de les délivrer de la mort et de les faire vivre, même en temps de famine. Nous espérons en l'Éternel. Notre secours et notre bouclier, c'est lui. Oui, c'est en lui que notre cœur se réjouit. C'est en son saint nom que nous avons confiance. Éternel, que ta grâce soit sur nous lorsque nous espérons en toi. Le psaume que nous avons lu nous parle de Dieu. Après une invitation à la louange, les versets 4 à 9 dirigent nos regards vers la création. Tout existe par la parole de Dieu. Sa parole est droite, fidèle, une parole juste, une parole empreinte de bonté. Ceux qui sont aptes à apprécier ses attributs sont les justes. Ils ont compris l'essence de toute chose. Manifeste de la reconnaissance et l'exprime par la louange. C'est ce que les chrétiens à travers le monde entier mettent en pratique ce jour et tous les jours de leur vie. Au verset 10 à 12, la parole de Dieu est fiable et solide. Elle s'accomplit toujours. Quand il parle, la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Qui peut s'autoriser une telle affirmation? À travers notre monde actuel, des personnes veulent dominer par le pouvoir de l'argent ou tout autre moyen. L'histoire nous enseigne que malgré des tentatives répétées, tout homme connaît une fin. Comme une poussière déplacée par le vent qui souffle, la vie de l'homme s'éteint et on en garde souvent peu de souvenirs. Seuls les plans de l'Éternel perdurent de génération en génération. Au verset 13 à 19, le jugement et le salut de l'humanité et de toute la création sont au pouvoir de notre Seigneur. Dieu est attentif à tes actions. Dieu n'est pas indifférent à ta situation, à ton état, quel qu'il soit. De son trône, il regarde avec attention sa création. Rien ne lui échappe. Les hommes croient détenir le pouvoir de sauver le monde. Ils s'équipent de tout type d'armement. Le verset 16 nous montre la limite de tous ces moyens pour nous sauver de la mort éternelle, car en fait, c'est cela le véritable enjeu. Quelle que soit ta vigueur, le salut vient de l'Éternel. Il est en Jésus-Christ. C'est en lui que tu dois placer ton espérance. Ce Dieu est bon pour toi et il veut te donner bien au-delà de ce que voient tes yeux. Es-tu dans la détresse? Le vrai secours est en l'Éternel. Réjouis-toi, chrétien. Renouvelle ta foi en ce Dieu bon et fidèle. Et toi qui ne le connais pas encore, relis ce texte et écoute maintenant les œuvres extraordinaires que le Seigneur a réalisées pour te sauver de la perdition éternelle.
Bonjour chers frères et sœurs, en ce jour de Pentecôte, à l'origine, la fête de Shavuot qui commémore le don de la Torah au peuple juif par Dieu, sur le mont Sinaï, 50 jours après Pâques. Nous nous pencherons sur le chapitre 2 du livre des Actes que nous lisons ensemble. Acte 2, verset 1er. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs hommes pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À ce bruit, ils accoururent en foule et ils furent stupéfaits parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient remplis d'étonnement et d'admiration et ils se disaient les uns aux autres, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous Galiléens? Comment se fait-il donc que nous les entendons chacun dans notre propre langue, notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du Pont, de l'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte, du territoire de la Libye voisine, de Cyrène, et résidents venus de Rome, juifs de naissance ou par conversion, Crétois et Arabes, nous les entendons parler dans notre langue des merveilles de Dieu. Tous remplis d'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, qu'est-ce que cela veut dire? Mais d'autres se moquaient, et disons, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, debout avec les 11 apôtres, s'exprima d'une voix forte en ces termes. Hommes de Judée, et vous tous, qui séjournait à Jérusalem, comprenez ce qui se passe et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car il est 9 heures du matin. Mais maintenant se réalise ce qu'a dit le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des rêves. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, durant ces jours-là, je déverserai de mon esprit, et ils prophétiseront, je ferai des prodiges, en haut dans le ciel, et des signes miraculeux, en bas sur la terre. Du sang, du feu et une vapeur de fumée, le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Israélites, écoutez ces paroles. Dieu vous a désigné Jésus de Nazareth en accomplissant par lui, au milieu de vous, des miracles, des prodiges et des signes. Comme vous le savez vous-même, cet homme vous a été livré suivant le projet défini et la prescience de Dieu. Vous l'avez arrêté, vous l'avez fait mourir sur une croix par l'intermédiaire d'hommes impies. Mais Dieu a brisé les liens de la mort. Il l'a ressuscité parce qu'il n'était pas possible qu'elle le retienne. En effet, David dit à propos de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois pas ébranlé. C'est pourquoi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse. Même mon corps reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton sein connaisse la décomposition. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie et tu me rempliras de joie par ta présence. » Mes frères, qu'il me soit permis de vous parler en toute franchise au sujet du patriarche David. Il est mort, il a été enseveli, et son tombeau existe aujourd'hui encore parmi nous. Or, il était prophète, et il savait que Dieu lui avait juré par serment de faire surgir le Messie, un de ses descendants, pour le faire asseoir sur son trône. C'est donc la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée, en disant qu'il ne serait pas abandonné au séjour des morts et que son corps ne connaîtrait pas la décomposition. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a déversé, comme vous le voyez et l'entendez. David, en effet, n'est pas monté au ciel, mais il dit lui-même, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'aie fait de tes ennemis ton marchepied. » Que toute la communauté d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Messie, ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous ? » Pierre leur dit, « Changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. » Nous voyons dans cet événement extraordinaire la manifestation de ce que le Seigneur avait promis aux apôtres. Premièrement, la survenance de l'Esprit-Saint, comme un vent, comme des langues de feu qui se posent sur la tête des apôtres et des disciples réunis. Ils furent remplis du Saint-Esprit. Deuxièmement, quant aux effets, le Saint-Esprit leur donnait de parler en différentes langues. Et troisièmement, le pourquoi à ce moment-là. Parce que des Juifs pieux originaires de nombreuses contrées étaient présents pour la fête de Pentecôte à Jérusalem et que l'Évangile leur serait annoncé dans leur langue. Et quatrièmement, des réactions évidemment ne se font pas attendre. La stupeur d'abord d'entendre parler dans leur propre langue, ce qui était étrange pour des Galiléens, et ensuite l'émerveillement face à l'Évangile, mais aussi, comme toujours, la perplexité et la moquerie. Ils doivent être ivres. Nous constatons que l'œuvre première du Saint-Esprit est missionnaire à ce stade. Ceux qui sont remplis du Saint-Esprit, comme Pierre en particulier, qui témoigne avec force en faisant reposer son discours sur les promesses de l'Ancien Testament. Cet esprit sera répandu dans le monde et il évoque aussi le jour du Seigneur dans les temps de la fin. Toutefois, ces temps, qui sont les derniers, viennent de commencer après l'ascension du Seigneur élevé dans la gloire. Il y a une urgence missionnaire à Jérusalem et dans le monde en vue du salut en Jésus-Christ. Cette prophétie de Joël 3, les versets 1 à 5, trouve donc un début d'accomplissement alors que tous ceux qui étaient réunis étaient des Juifs. C'est par Jésus-Christ que cela s'accomplit, en partie à la Pentecôte. Souvenons-nous de ce que Jean-Baptiste disait du Messie en Luc chapitre 3, les versets 16 et 17. « Alors il leur dit, « Moi je vous baptise d'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de détacher la courroie de ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Il a sa pelle à la main. Il nettoiera son aire de battage et il amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Pierre évoque les miracles accomplis, les signes et les actes extraordinaires. Le plan de Dieu s'est accompli par sa mort, livré et tué par des impies, mais ressuscité. Il a vaincu la mort, et Pierre de citer ce que David dit du Seigneur dans le psaume 16, au verset 8 à 11. Citation reprise en acte 2, au verset 25 à 28. En effet, David dit à propos de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois pas ébranlé. » Et nous avons lu la suite il y a quelques instants. David est mort et enterré, dit Pierre, mais Jésus est sa descendance. C'est bien ce que nous avons vu dimanche dernier avec la fin du livre d'Esther quant à son sens historique. Pierre parle aussi en tant que témoin. Ce n'est pas négligeable. Et au verset 33, il fait référence à l'ascension du Seigneur, élevé à la droite de Dieu. Et comme Dieu l'a promis, il a reçu du Père l'Esprit Saint et il l'a répandu sur nous, dit Pierre. C'est ce qu'ils voient et entendent lors de cet événement qui se produit à la Pentecôte. L'aspect missionnaire revient encore au verset 36. Ce que tout le peuple d'Israël doit savoir avec une entière certitude. Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus que vous avez crucifié. Alors au verset 37 à 39, ceux qui étaient touchés demandent ce qu'ils doivent faire et Pierre de leur répondre « Changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Une promesse et un message à portée universelle selon l'intention de Dieu. Cela ne vous fait-il pas penser au chapitre 3 de l'évangile de Jean, où à partir du verset 2 à 8, lorsque Nicodème, docteur de la loi, dignitaire religieux, venant à Jésus, dit « Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais, si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit « en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Et Nicodème lui dit « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître ?» Jésus répondit « en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de parents humains est humain, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit « il faut que vous naissiez de nouveau. » Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'Esprit. » Nous lisons encore au verset 14 à 20 du même chapitre. « Et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et voici quel est ce jugement. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leur manière d'agir était mauvaise. En effet, toute personne qui fait le mal déteste la lumière, et elle ne vient pas à la lumière pour éviter que ses actes soient dévoilés. À propos de ceux qui sont sauvés, L'apôtre Paul écrit dans sa première épître aux Corinthiens, au chapitre 12 et au verset 13, « En effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps et nous avons tous bu à un seul esprit. » Ce baptême du Saint-Esprit, qui nous fait mourir à nous-mêmes et naître à la vie d'en haut, nous incorpore du même coup à l'Église de Jésus-Christ. Alfred Kuhn, dans son ouvrage « Je bâtirai mon Église », écrit ceci au sujet de la nouvelle vie du croyant par rapport à sa vie passée. Comme tous les passages des Épîtres qui se rapportent au baptême du Saint-Esprit, l'apôtre parle aux Corinthiens de cet événement au passé. Ils sont nés de nouveau. Nulle part dans les lettres adressées aux chrétiens, il n'exhorte les nouveaux convertis à rechercher le baptême de l'Esprit. Pourtant, si, à juger d'après les apparences, des chrétiens avaient besoin de ce baptême de l'Esprit tel qu'on le conçoit aujourd'hui dans certains milieux, c'était bien les Corinthiens. L'apôtre Paul pouvait sans hésitation leur écrire qu'ils avaient tous été baptisés du Saint-Esprit, car ils savaient que l'on admettait dans l'Église locale que ceux qui avaient passé par la nouvelle naissance. Je cite encore un extrait du même ouvrage qui nous parle particulièrement en ces temps de confinement et de déconfinement progressif. Dans le Nouveau Testament, nous ne voyons nulle part un croyant vivre sa vie chrétienne à l'écart de ses frères et sœurs. Aujourd'hui encore, si le Seigneur baptise de son Saint-Esprit, c'est toujours en vue de constituer son corps. S'il fait naître les croyants à la vie divine, ce n'est pas pour qu'il y ait ici ou là une cellule vivant isolée. Selon Éphésiens 1, versets 21 et 22, « Il a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. » Et encore en Éphésiens 2, les versets 21 et 22, « C'est en lui que tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est en lui que vous aussi vous êtes édifiés avec eux pour former une habitation de Dieu en esprit. » C'est donc pour cela que Jésus déclare en Jean 16, verset 7, « Cependant, je vous dis la vérité. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous. » Ces paroles semblent tellement contraires aux attentes légitimes des disciples à qui Jésus vient d'annoncer les difficultés et persécutions que l'Église naissante aura à souffrir. Jésus ne sera plus là pour les protéger et les secourir. Mais la nouvelle réalité sera que le Saint-Esprit sera toujours en tous, comme nous l'avons lu au début du chapitre 2 des Actes. Jésus est notre premier défenseur devant la colère de Dieu. Mais Jésus a annoncé un autre défenseur qui s'appuie sur l'œuvre du Fils et est similaire à la sienne. L'Esprit nous défend face à l'accusation de notre conscience et du diable. C'est ainsi que l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, selon Romains 8, verset 16. C'est dans cet esprit que la fin du chapitre 2 des Actes nous décrit l'enthousiasme des premiers croyants dans l'Église naissante dans les versets 42 à 47, que vous connaissez vraisemblablement et que vous pouvez lire par vous-même. Mais très vite vient l'opposition et les apôtres sont appelés à rendre des comptes publiquement de leur foi et de leurs actions. En Actes 4, les versets 8 à 12, nous lisons « Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit « Chef du peuple et anciens d'Israël, on nous interroge aujourd'hui sur un bienfait accordé à un infirme. Alors que nous disions comment il a été guéri. Sachez-le bien, vous tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité. Oui, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous, qui construisez et qui est devenue la pierre angulaire. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et un peu plus loin, dans le même chapitre, Pierre et Jean, avec les disciples réunis, font le bilan des difficultés. Et nous lisons au verset 29 à 31. « Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces, et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Déploie ta puissance pour qu'il se produise des guérisons, des signes miraculeux et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. » Quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Nous voyons encore quelques chapitres plus loin les fausses accusations portées contre Étienne et les membres de la synagogue, incapables de résister à la sagesse des paroles que l'Esprit donnait à Étienne. C'est après avoir défendu sa foi devant le grand prêtre avec une référence étoffée de l'histoire d'Israël qu'il termine en acte 7, verset 53. « Vous qui avez reçu la loi par l'intermédiaire des anges et qui ne l'avez pas gardée. » Les versets 54 à 60 nous montrent Étienne, rempli de l'Esprit-Saint. Lisons ensemble. En entendant ces paroles, ils avaient le cœur plein de rage et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards vers le ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il dit « Je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles. Se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent à l'extérieur de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Ils jetaient des pierres à Étienne qui priait et disait « Seigneur Jésus, accueille mon esprit. » Puis il se mit à genoux et s'écria d'une voix forte « Seigneur, ne les charge pas de ce péché. » Après avoir dit cela, il s'endormit. Il s'ensuit une violente persécution. Un certain Saul de Tarse avait donné son approbation, on trouve ça au chapitre 8, verset 1. Il avait donné son approbation à la lapidation d'Étienne. Et nous savons quel changement le Seigneur opéra dans sa vie. Je reviens sur les paroles de Jésus aux disciples en Jean 14, versets 15 à 20. Si vous m'aimez, respectez mes commandements. Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur, afin qu'il reste éternellement avec vous, l'Esprit de la vérité, que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, car il reste avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviens vers vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez parce que je vis et que vous vivrez aussi. Ce jour-là, vous saurez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. » Cela me fait penser aux paroles d'un ancien cantique « Ne crains rien, je t'aime », dont le refrain dit « Non, jamais tout seul, je suis avec toi. » Promesse suprême qui soutient ma foi. Peut-être vous souvenez-vous de la néerlandaise Corrie ten Boom, dont la famille a caché et fait passer en zone sûre de nombreux juifs au cours de la Seconde Guerre mondiale. Dénoncé par un voisin, le père mourra en prison et Corrie et sa sœur Betsy seront déportées au camp de concentration de Ravensbrück. Sa sœur y mourra d'épuisement et des mauvais traitements subis. Mais là, dans un lieu où la dignité humaine avait perdu son sens et où la défiance envers un Dieu qui semblait sourd à la souffrance, Betsy continuait à lire la Bible et à témoigner de sa foi. Corrie était très en souffrance de voir sa sœur tellement affaiblie. Mais elle partagea aussi sa foi dans cette baraque insalubre et puante où même les gardes n'entraient plus. Corrie survécut contrairement à sa sœur. L'organisation Billy Graham a réalisé un film de cette histoire vécue, Dieu en enfer, The Hiding Place en anglais, la cachette. Après la guerre, Corrie ten Boom a parcouru le monde pendant une trentaine d'années, témoignant de la présence de Dieu dans cet enfer. Un jour, de 1947, où elle avait témoigné sur le thème du pardon dans une église d'Allemagne, elle vit un homme venir vers elle pour lui dire qu'il avait été gardien au camp de Ravensbrück. Corrie le reconnut, mais lui non. Il lui dit que Dieu l'avait pardonné et qu'il était devenu chrétien. Et Corrie écrit ceci à propos de cette rencontre. Je me tenais là, incapable de me réchauffer le cœur. Mais le pardon n'est pas affaire de sentiments. Je le savais fort bien. C'est un acte volontaire et la volonté fonctionne quelle que soit la température du cœur. Jésus, viens à mon aide, priai-je en silence. Je peux faire le geste, mais à toi de me donner l'amour. Et c'est ainsi que, comme un automate, je serrai la main tendue vers moi. Alors se produisit une chose incroyable. Un courant me passa de l'épaule et du bras dans mes mains moites. Il réchauffa tout mon être et me fit venir les larmes aux yeux. Frère, je vous pardonne de tout mon cœur. Longtemps nos mains restèrent nouées, celles de l'ancien gardien et celles de l'ancienne détenue. Je n'ai jamais connu l'amour de Dieu d'une façon si intense que ce jour-là. Mais je savais que ce n'était pas mon amour à moi. J'avais essayé et j'avais échoué. Mais je n'ai pas pu le faire. Le Saint-Esprit l'a fait en moi, comme le dit Romains 5:5. L'amour de Dieu s'est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Fin de citation. Il m'a paru important de montrer à quel point des situations extrêmes peuvent nous placer dans l'impossibilité humaine de faire face et d'agir comme le Seigneur le veut. Mais Dieu lui-même supplée à notre faiblesse, comme l'Esprit le fait aussi, au travers de la prière. Étienne, le martyr des Actes, a été secouru dans sa détresse par la vision de la gloire de Dieu à qui il abandonne son âme. La Pentecôte est effectivement un événement, parce que la promesse du Seigneur s'est étendue à tous les croyants. Un Esprit Saint qui ne s'enferme ni dans une méditation, ni dans un fascicule, parce qu'il est la manifestation même de Dieu dans nos cœurs. Et pour terminer, lisons ensemble ces quelques versets. Tout d'abord en Romains 8, les versets 22 à 23. « Or, nous savons que jusqu'à maintenant, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement. Et ce n'est pas elle qui soupire, mais nous aussi, qui avons pourtant dans l'esprit un avant-goût de cet avenir. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la libération de notre corps. » Et 2 Corinthiens 4, verset 18. « Ainsi, nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible, car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. » 2 Corinthiens 5, 5 encore, et celui qui nous a préparés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné le gage de l'Esprit. À nous de savoir ce que nous faisons de cette présence en nous. Restons vigilants, chers frères et sœurs. Amen.